Gisèle Brun
et Patrick Subreville vous présentent
Les Aventuriers des Lettres.
Bonjour Gisèle.
Bonjour Patrick, bonjour à tous.
Bonjour à tous et bonjour à Jimmy, qui est aux manettes. Aujourd'hui, je vous propose de partir un peu en voyage. On va rester dans l'Hexagone et puis on va partir vers l'Alsace. Est-ce que ça vous va, oui ?
Oui, parfait.
Bon. Alors, récemment, j'ai rencontré quelqu'un et alors il m'a dit il faudrait rendre cette rencontre immortelle. Alors, je lui ai dit, voilà ce que je peux proposer à la postérité. Il m'a dit qu'il s'appelait Fritz. Alors, j'ai dit Fritz, bon, il y a du Frédéric là-dedans.
Ou Franz.
Franz, c'est François. Et Fritz, Frédéric, ou Fritzel aussi, Fritzel, si on veut. Et donc, c'est devenu un ami, ce monsieur.
Ah.
Et alors, l'ami Fritz, que nous avons rencontré, rappelez-vous, est un jeune et riche Alsacien de Hunebourg.
Oui.
Il est affable. Il est affable, affable en un mot. Il est affable, il est bon comme le pain
comme
et sans souci. Quand il fait un voyage, il pense à sa chère petite ville. Et sous ses paupières closes, il en fait défiler les images. La brasserie du Grand Cerf, la vieille cour de la synagogue, la place du marché, comme des figures de lanternes magiques. La comparaison, là, elle revient à notre littérature et nous, par exemple, nous envoyons un message à Marcel Proust qui fera la même chose aussi dans Du côté de chez Swann. Il parlera de lanterne magique et c'est une belle expression qui nous éclaire. Tous les livres d'Hermann Chatrian, on verra qui se cache derrière ces deux patronymes, ces deux noms, Hermann Chatrian, l'un a une consonance germanique, l'autre est plus chatoyant, plus français peut-être, oui, sont des lanternes magiques qui découpent dans l'épaisseur du temps une lucarne, un cercle d'or au milieu duquel passe un vendeur de peau, un bûcheron, un soldat de l'an 2, une jeune fille sous un cerisier, ou les braves du maréchal Ney. Nous faisons un petit peu un voyage dans l'histoire de France, tel un miracle. Et ce miracle est en réalité le miracle de l'écriture. Un écrivain français, connu pour ses succès avec Caroline Chéry, Jacques Laurent, pour qui Erckmann et Chatrian, à la maintenant on dit Erckmann et Chatrian, font partie de notre grande littérature, croient avoir trouvé leur secret. Ils vous décrivent une petite friture, et on aura envie de la manger. Ils nous permettent à nous, lectrices, lecteurs, d'avoir plusieurs vies. Et c'est le but essentiel de tout roman. Cela pour, on va dire, pour une introduction à ce paysage merveilleux et ces personnages qui nous attendent, soit en Lorraine, soit en Alsace. Donc nous avons parlé de l'ami Fritz. On a parlé aussi d'Erckmann Chatrian, qui sont les auteurs, qui sont les géniteurs, si on peut dire, de l'ami Fritz. Et cet ami Fritz, il y en a beaucoup. On verra ils sont légion en Alsace ou même en Lorraine, mais peut-être plutôt en Alsace. Et alors, nous avons affaire avec un certain ami Fritz. Et Gisèle, là, vous allez nous donner un peu une fiche de signalement pour voir à qui nous avons affaire.
Lorsque Zacharias Cobus, juge de paix à Hambourg, mourut en 1832, son fils, Fritz Cobus, se voyait à la tête d'une belle maison sur la place des Acacias, d'une bonne ferme dans la vallée de Mesenthal et de pas mal d'écus placés sur de solides hypothèques, essuya ses larmes et il se dit avec l'Ecclésiaste « Vanité des vanités, tout est vanité ». Quel avantage à l'homme des travaux qu'il fait sur la terre ? Une génération passe et l'autre vient. Le soleil se lève et se couche, aujourd'hui comme hier. Le vent souffle au nord, puis souffle du sud. Les fleuves vont à la mer et la mer n'en est pas remplie. Toute chose travaille plus que l'homme ne saurait dire. L'œil n'est jamais rassasié de voir, l'oreille d'entendre, On oublie les choses passées, on oubliera celles qui viennent. Le mieux est de ne rien faire pour ne rien avoir à se reprocher.
Le mieux est de ne rien faire. Eh bien, nous allons travailler avec plaisir quand même pour n'avoir rien à se reprocher. Tant que Zacharias Cobus était juge de paix à Hunebourg, il est mort en 1832, et il a un fils, Fritz, qui se voit la tête d'une belle maison sur la place des Acacias, d'une bonne ferme dans la vallée de Maisenthal. Maisenthal veut dire en français la vallée des mésanges, et de pas mal d'écus placés sur solide hypothèque. Il essuie une larme en pensant à tout ça, et il cite aussi un texte sacré, l'Ecclésiaste, « Vanité des vanités, tout est vanité ». Voilà. Quel avantage à l'homme de travailler sur terre, etc., etc. Nous allons travailler différemment. On va essayer de découvrir et éclaircir ce mystère d'Alsace. Qui sont ces deux personnages, Erckmann et Chatrian? On dit Erckmann-Chatrian. Alors, c'est un pseudonyme collectif utilisé par ces deux, de 1847 à 87, par ces deux écrivains français célèbres, mais qui étaient auteurs de contes fantastiques, de feuilletons et de nouvelles. Émile Erckmann est né le 20 mai 1822 à Phalsbourg, la Moselle, et mort le 14 mars 1899 à Lunéville. Alexandre Chatrian est né le 18 décembre 1826 à Situ, et décédé le 3 septembre 1890. Et donc, ce sont deux écrivains qui ont fait beaucoup pour les lettres françaises et les lettres d'Alsace. Ils sont nés en Meurthe, la Moselle actuelle, et ils ont devenu amis, ils se sont rencontrés en 1847. Et ils avaient quitté leur Alsace natale et se mirent à écrire un grand nombre de romans. On dirait nationalistes, mais c'est le mot à prendre au point de vue historique, car ils sont dans une région qui tantôt a été tantôt allemande, tantôt française. L'Alsace est française depuis 1648, et par l'histoire, elle est tantôt devenue allemande, tantôt redevenue française. Il y a de quoi de s'y perdre, ce n'est pas du tout facile. Et dans leur œuvre, donc, nous avons du réalisme poétique, du réalisme rustique, on est à la campagne, influencé peut-être par les conteurs d'Alsace, mais aussi outre-Rhin de la Forêt-Noire.
Les contes du bord du Rhin.
Les contes du bord du Rhin. Tout cela se transfigure en épopée, mais en épopée populaire. Et outre l'œuvre de Erckmann-Chatrian, nous avons aussi une autre qui a été très connue des écoliers de France. C'est le Tour du Monde, le Tour de France par deux enfants, qui date de 1877, après la guerre et la guerre de 70-71, d'Augustine Fouillet, en littérature Monsieur Bruno, et qui a pour cadre le départ de la ville de Phalsbourg, et les enfants vont faire le Tour de France. Donc, ça a été remarquable, ce livre. On l'a réédité récemment, et il nous montre avec les yeux d'enfants les beautés d'autres beaux pays. Ils partent de Phalsbourg et reviennent plus tard, bien entendu. Donc, avez-vous l'impression que ce Fritz aime beaucoup travailler? Non.
Non, pas du tout. Non. Moi, je veux situer quand même l'histoire, parce qu'en fait, ça se passe dans une Alsace administrativement française.
Tout à fait.
Mais fortement imprégnée de culture allemande.
Eh bien oui, c'est à côté, et puis c'est vraiment immédiat.
Alors, mieux encore, la région où se situe l'action, bien que française, est rattachée à la Bavière.
Voilà, la Bavière à l'époque était
toute
immense.
Toute proche,
que maintenant.
C'est ça,
voilà.
Oui, voilà. Alors, Fritz se déclare bavarois, et les vieux briscards de l'Empire rencontrés dans les rues se font traiter de Franzosen.
Voilà, les Français.
Ce qui n'empêche pas la vie de s'écouler paisible et heureuse.
Un certain art de vivre.
Voilà.
Et donc, ce village, c'est le village de Hunebourg. On a parlé de la place de la synagogue. Il y a aussi la grande auberge, le grand cerf, Et puis, il y a aussi la maison où habite notre héros, notre cher Fritz Cobus.
On peut parler des personnages.
Allons-y, justement.
Alors, il y a d'abord Fritz Cobus, qui est un bourgeois bien pourvu par ses parents.
Oui.
Un type bien, un épicurien, oui. Oui. Comme le qualifie son voisin. Donc, un autre héros qui s'appelle David Sichel, qui est un rabbin.
Voilà.
Bon, alors c'est un rabbin qui est religieux, qui ne souhaite que le bien d'autrui et l'harmonie matrimoniale.
Voilà.
Après, il y a Ketel, la bonne de Cobus, une vieille fille un peu râleuse.
Oui, mais excellente cuisinière.
Mais en plus, elle tient la maison de Cobus.
Elle tient la maison très propre, très accueillante, et elle règne sur la cuisine et sur les fourneaux.
Voilà. La petite Suzelle, alors une fille très simple, vivant chez ses parents, des paysans dévoués, qui s'occupent de la ferme d'ailleurs de Cobus.
Tout à fait, à Meisenthal.
Voilà. Il y a le gros percepteur Christian Hahn, qui a pour tâche ingrate de racketter pour le roi, même les plus misérables.
Voilà.
Mais c'est aussi un bon bougre.
Oui, un
Et
bon
il y a
vivant.
Aussi le gros Frédéric Schulz, qui est un ancien sergent.
De la Landwehr.
Qui est aussi un bon compagnon avec Anne. Et ils sont des bons compagnons pour jouer au Junker, dans les auberges, donc la brasserie du bœuf et celle du grand cerf.
Voilà.
Et n'oublions pas quand même le gitan, Joseph.
Voilà.
Qui est un violoniste pauvre, fier, reconnaissant et taiseux.
Taiseux, voilà, un peu philosophe aussi. Et je reviens sur le sergent. J'ai parlé de milice, attention en français. Il s'agit de la milice territoriale. Nous sommes en 1840 à peu près, voilà. C'était une seconde force et qui est presque un peu une gendarmerie qui vivait sur le territoire, comme on dit maintenant. C'était important leur rôle, voilà. Donc, nous avons. Et puis, qu'est-ce qu'il y a aussi? Bon, il y a Suzelle, il y a les parents, il y a le père, qui est un anabaptiste.
Anabaptiste,
qu'est-ce que c'est qu'un ce mot? Alors, c'est un mot qui nous vient du grec, un peu aussi. Anna, et puis Baptiste. Anna, qui veut dire de nouveau, A-N-A. Et puis, Baptizein, qui veut dire plonger dans l'eau.
Reçoit le baptême, ça veut dire.
C'est ça. Mais il y a une petite nuance. Les anabaptistes sont membres d'une secte politique et religieuse du XVIe siècle, c'est pas d'aujourd'hui, et ils rejettent le baptême des enfants, comme pour eux c'est inefficace.
Oui, parce qu'en fait, ils n'ont pas choisi les enfants.
Voilà. Donc, il faut soumettre ses adeptes à un second baptême.
Voilà.
Et il y en a beaucoup encore. Il y en a quelques-uns en Alsace, ou bien même dans les pays. J'en ai rencontré dans le Gard, par exemple.
Ah bon ?
Dans le Gard, oui. À Anduze, pour tout dire, voilà. Anduze, qui a un temple remarquable, avec une acoustique irréprochable. Alors, que faisons-nous avec tout ce beau monde ? Eh bien, on va dire que Fritz Cobus est l'hérité de la maison, si c'est bien ça.
C'est ça, oui.
Alors, éclairez-nous sur cette ferme.
Alors, il a hérité de la maison de son père, qui était juge de paix. Mmh. Il a hérité donc d'une belle ferme, on l'a dit tout à l'heure, et décide donc de connaître le bonheur sur terre et sans fournir le moindre effort.
Voilà. Tranquille, cool.
Donc, sa recette, faire chaque jour le tour de ses champs, vérifier ses comptes, céder le bon cœur aux plats savoureux et multiples préparatifs par sa vieille servante Ketel, vider quelques chopes de bière à la noble et belle mousse, fumer quelques pipes d'écume et aussi, afin de préserver ce bonheur égoïste, ne pas acheter d'action industrielle ni de se marier. Un tel emploi du temps lui assure une paix royale.
Ça, c'est vraiment un programme remarquable. Surtout, voilà, ne pas acheter d'actions industrielles.
Ah, son père lui avait dit.
Il lui avait dit, le juge de paix, surtout ne pas se marier.
Aussi,
donc,
il lui avait dit.
Lui assure une paix royale. Mais, jusqu'au jour où son vieil ami, le rabbin David Sichel, qui s'entête à lui trouver une épouse, lui fait lever les yeux sur la jolie Suzelle, la délicieuse fille de son fermier. La trame est simple, l'écriture vive, le récit pédagogique, il révèle une sorte de pays idéal, un pays de cocagne où toutes les croyances, toutes les religions, opinions sont tolérées, mieux respectées, mieux acceptées. Fritz est anabaptiste, lui aussi, David israélite et leurs amis Joseph et Zigan. Et ma foi, tout ce beau monde s'entend à merveille. C'est ce qui est beau.
Voilà.
Si ça pouvait être plus développé de nos jours, ça serait pas mal du tout.
Les religions.
Mais tant qu'il y aura des hommes, comme disait le film, c'est pas du tout évident.
Ouais.
Bref, passons. Et donc, voici maintenant l'emploi du temps de notre brave Fritz. C'est un emploi du temps qui est bien agréable. Et puis, on tourne autour de la gastronomie, par
oui,
exemple.
Oui, la bonne chère.
La bonne chère. Tu te lèveras le matin, c'est réglé comme du papier à musique. Tu te lèveras le matin, entre 7 et 8 heures, et la vieille Catel t'apportera ton déjeuner, que tu choisiras toi-même, c'est-à-dire le petit déjeuner, selon ton goût. Ensuite, tu pourras aller soit au casino, c'est-à-dire le casino, ça peut être le sens militaire, ou ça peut être aussi un établissement, un café.
Je pense que c'est ça aussi,
qui en Allemagne ou en Alsace dépendait de la mairie aussi.
C'est la mairie, d'accord.
Voilà, pour lire le journal, faire un tour au champ, pour te mettre en appétit.
Il avait tellement fait de choses qu'il avait besoin de se mettre en
appétit. Au petit déjeuner, il n'a rien mangé.
Oui, c'est ça.
À midi, tu redeviendras dîner. À midi, on dîne.
Oui, c'est pas comme chez nous.
Et c'est pas pareil.
Non, à midi, on déjeune et le soir, on dîne. Oui.
Soit faire un petit tour au champ. Après le dîner, tu vérifieras tes comptes. Si la sieste n'arrive pas, tu recevras tes rentes. Il faut quand même vivre. Tu feras tes marchés. Le soir, après souper, tu iras à la brasserie du Grand Cerf, faire quelques parties de Euchre ou de Rams avec les premiers venus. Tu fumeras des pipes, tu videras des chopes, généralement 6 le soir.
Oui.
On n'a pas de problème rénaux, ça va bien. Et tu seras l'homme le plus heureux du monde.
Du bonheur, rien que du bonheur.
Voilà. Tâche d'avoir toujours la tête froide. Ça, c'est important.
Ça, ouais.
Le ventre libre et les pieds chauds.
Chaud, voilà.
C'est le précepte de la sagesse. Et surtout, évite ces trois choses, comme nous avons dit, de devenir trop gras, c'est pas facile,
de prendre des actions industrielles,
bon, d'accord, et surtout de se marier. Bref, comme vous l'avez dit et comme on le dit de nos jours, du bonheur,
rien que du bonheur.
Bien. Mais il y a toujours
le rabbin.
Le rebbe, qui est par là. Et c'est un ami. Fritz nous dit qu'il avait le plus grand plaisir de le voir, de près ou de loin. Il voyait de loin le profil vieux rabbin, avec son chapeau râpé penché sur le derrière de sa tête,
son bonnet
de coton noir tiré sur la nuque, sa vieille cape verte, au grand collet graisseux remontant jusque par-dessus les oreilles. Il y avait aussi son nez crochu barbouillé de tabac, sa barbiche grise, ses longues jambes maigres, revêtu de papier de bas noir, formant de larges plis, comme autour de manches à balai, et ses souliers ronds à bout de cuivre. Grand Dieu, qu'en pensez-vous de cette description ?
Écoutez, il était sympathique, mais il n'était pas très élégant, hein, quand même.
Non, c'était pas l'élégance, mais il était gentil comme tout.
Ah oui.
Et puis il faisait partie de
mais des copains de Fritz.
De ça, des notables et
oui,
des copains de Fritz.
Ah, oui.
Et il était très perspicace et très observateur. Voilà. Donc après, on va aller peut-être voir au Grand Cerf ce qui s'y passe, car un certain soir, eh bien, quelque chose s'est passé.
Mais oui.
Voilà. Et après, on aura un peu de musique.
Bien longtemps avant, un soir de Noël, Cobus se trouvait à la brasserie du Grand Cerf. Il y avait 3 pieds de neige dehors, dans la grande salle pleine de fumée grise, autour du grand fourneau de fonte, les fumeurs se tenaient debout, tantôt l'un, tantôt l'autre s'écartait un peu vers la table pour vider sa chope, puis revenait se chauffer en silence. On ne songeait à rien quand un bohémien entra, les pieds nus dans des souliers troués. Il grelottait et se mit à jouer d'un air mélancolique. Fritz trouva sa musique très belle. C'était comme un rayon de soleil à travers les nuages gris de l'hiver. Mais derrière le bohémien, près de la porte, se tenait dans l'ombre le Watzmann Fuchs, avec sa tête de loup à l'affût, les oreilles droites, le museau pointu, les yeux luisants. Cobus comprit que les papiers du bohémien n'étaient pas en règle. Lui mit dans la main un thaler et, le prenant bras-dessus, lui dit « Je te retiens pour cette nuit de Noël, arrive !»
Et oui, donc il lui met dans la main un thaler.
Il le sauve, en fait.
Il le sauve.
Il le sauve, oui.
Un thaler, c'est une pièce monnaie.
Oui, c'est ça, une petite pièce.
Une pièce monnaie, oui. Mais l'intéressant, c'est que ce mot « thaler » allemand, il a donné le mot américain « dollar ».
Ah, d'accord.
Voilà, un dollar, voilà. « Je te retiens pour cette nuit de Noël, arrive. » Ils sortirent donc au milieu de l'étonnement universel, pas général, mais universel, le monde. Et plus d'un pensa, « Ce Cobus est fou d'aller bras dessous avec un bohémien. C'est un grand original. » Fuchs, lui, les suivait en frôlant les murs. Le bohémien avait peur d'être arrêté, mais Fritz lui dit « Ne crains rien, il n'osera pas te prendre. » Il le conduisit dans sa propre maison, où la table était dressée pour la fête du Christkind. C'est le réveillon.
L'enfant Jésus.
Voilà. « Kattel, va chercher un autre couvert, » dit Cobus. « Je célèbre ce soir la naissance du Sauveur avec ce brave garçon. Et si quelqu'un vient le réclamer, gare !» Et même Kattel dut préparer un bon lit pour cet homme, qui reçut le lendemain matin souliers, vieux habits et un bon morceau dans sa poche. Que pense-t-on de ce geste ?
Ah, c'est un grand plaisir de s'apercevoir quand même ce Cobus qui a le cœur sur la main, en fait, parce qu'il a compris que ce gitan était recherché par la police.
Oui.
Et il l'a sauvé. Voilà, c'était... il est d'une gentillesse quand même. Il avait beaucoup d'argent, bien qu'il soit quand même assez égoïste.
Oui,
mais
oui.
Il avait
bon cœur.
C'est ça, il avait bon cœur.
Il a bon cœur, il a le cœur sur la main. Et puis, il a été pris un petit peu de pitié, peut-être,
oui,
le soir de Noël.
Oui, et puis en plus, la musique lui a plu.
La musique
lui a
plu.
Ah oui, parce que le musicien, il était...
Le violon.
Voilà, c'est ça.
Le violon qui pleure.
C'est ça. Donc,
voilà.
il avait trouvé la personne qui pouvait lui apporter du bonheur, en plus.
Voilà. Donc, parce que même parfois, s'il est heureux et tout, parfois, Dame Solitude est toujours un peu pesante,
voilà.
Parfois. Le
oui.
Soir Noël, c'est pas évident.
Voilà.
D'ailleurs, les autres se retrouvent, ils sont debout en train de fumer, ils sont rêveurs devant le feu. Et
voilà,
généralement,
voilà,
ce sont des célibataires,
voilà.
Des joyeux de riz.
Donc, tandis qu'une bouteille passait de main en main, et vive allègrement, le vieux David...
Oui.
Ouais, c'est toujours le rabbin. Le vieux David Sichel fit son apparition. Autant les mines des convives étaient joyeuses, colorées, prises par les effets des alcools et des calories ingurgitées, autant le visage du rabbin réprobateur se montrait sévère. Mais cela se faisait partie des coutumes et David redevint un homme comme les autres, s'assit et laissa le rire l'envahir. Avant, qu'il précédait le festin, en fait. Celui-ci fit entendre sous la forme d'une petite voix fraîche et gaie qui venait de la cuisine, malgré la fièvre provoquée par les agapes. Fritz se troubla et s'enquit pour savoir qui avait parlé ainsi. Le destin répondit « C'est la petite Suzelle, vous savez, la fille de Christelle, votre fermier de Meseltal. Elle apporte des œufs et du beurre. » Et Suzelle entra. Et Fritz Cobus, sa musique intérieure prit un rythme étrange et nouveau. Mais en fut-il conscient ? Suzelle, cria Cobus, arrive ! Alors la petite fille blonde et rose, de 16-17 ans, fraîche comme un bouton d'églantine, les yeux bleus, le petit nez droit aux narines délicates, les lèvres gracieusement arrondies, en jupe de laine blanche et casaquin de toile bleue, parut sur le seuil, la tête baissée, toute honteuse. Suzelle resta un bon moment au milieu de ses convives, ravie de la voir, de la contempler. Le maître des séants aussi se forçait à rire comme si de rien n'était. Mais en son fort intérieur, un trouble infime, peut-être, mais un trouble réel s'installa pour ne plus en sortir.
Voilà. Dans sa vie, quelque chose vient de se
passer.
Ça
l'a bouleversé quand même.
Voilà, ça l'a bouleversé. Et oui, peut-être que Cupidon a décoché une flèche.
C'est ça.
On ne sait pas. Eh bien, nous sommes contents pour ce changement dans sa vie. Et nous allons écouter un groupe alsacien de musique folklorique. Voilà, le bal s'arrête pour un instant,
c'est ça.
On reviendra après. Donc, eh oui, un rayon de soleil est arrivé dans la maison.
Et ça l'a bouleversé.
Ça l'a bouleversé. Et une fois parti, eh bien David, lui, ne tarit pas d'éloge sur cette apparition qui, s'en rend compte, fit son effet. Une mésange, une tourterelle, un oiseau venait de s'inviter et de mettre la cage aux oiseaux, la cage aux oiseaux, en ébullition, Fritz, lui, dissimulait tant bien que mal une sorte d'embarras, car d'évidence, David s'engouffrait dans ce coup de destin, amenant de l'eau à son propre moulin. David, le marieur, était heureux.
Oui, parce qu'il avait décidé qu'il voulait voilà. marier absolument Cobus.
Il y avait une vigne à la clé.
Mais c'est ça. Donc, et Fritz avait dit non, je ne me marierai jamais. Et ils avaient parié. Un terrain de vigne voilà. avec le rabbin. Donc, Fritz disait, je ne me marie pas, je garde mon terrain. Et David disait, si jamais tu te maries, c'est moi qui récupère les vignes.
Voilà.
Donc, c'était un pari un peu bizarre quand même. Voilà. Donc, David s'est dit, c'est moi qui vais le récupérer quand même.
Et oui, et donc, il y a deux points de vue qui s'affrontent
oui,
là.
Oui. Gentiment, quand même.
Oui, bien sûr. Et
toujours dans la bonne humeur.
Toujours dans la bonne humeur. Mais enfin, les choses se disent mais avec délicatesse.
C'est ça, avec
c'est
finesse.
C'est ça, avec voilà. finesse. Voilà. Et une sorte de mélancolie qui s'invite aussi, parfois.
Ah, mais c'est Fritz qui, d'un voilà. seul coup, devient mélancolique. Parce
et
que...
oui, malgré les verres, et les toasts
c'est
et
ça.
Tout,
voilà.
il y a quelque chose de plus souterrain qui vient de se signaler.
Pour lui, ça devient difficile.
Ça devient parce difficile. Il est perturbé.
Il, parce qu'il ne veut pas admettre ça.
Non. Il est perturbé par l'agent féminine, par la jeunesse féminine. La tension est palpable, inhabituelle, un peu lourde. Et David prend l'offensive devant un Fritz mal à l'aise. « Non, ce n'est pas ça, » dit Fritz, « non. » « Mais si, lui dit David, tu ne penses pas, tu n'as jamais réfléchi. » Ah, il n'a jamais pensé que cela pouvait arriver un jour. Et je pense, nous pensons que David a marqué un point.
Ah ben là oui.
Même deux, même trois. Et ensuite, que rétorque notre Fritz ? Notre Fritz. Justement, il faudrait changer mes habitudes. Et je ne pourrais pas aller le chapeau sur l'oreille ou sur la nuque, il faudrait renoncer à fumer la pipe, ce serait l'abomination de la désolation.
Il avait l'impression qu'il allait tout perdre.
Je tremble rien que d'y penser. Tu vois que je raisonne mes petites affaires. Avant tout, tâchons d'être heureux. Bon, d'accord, mais enfin. Et se marier, oh mon Dieu, fonder une famille et transmettre aux générations le dépôt de la vie qui nous a été confiée.
C'est ça.
Toute une philosophie, mais c'est du bon sens que c'est une philosophie pratique ici. Et notre pauvre Fritz Cobus est bien malheureux finalement.
Mais oui.
Parce que la réalité se montre telle qu'elle est. Et Fritz, lui, campe sur ses positions.
Il essaye de se défendre.
Voilà. Et pour donner le change, eh bien, on quitte la table pour en trouver une autre. On part tous en chœur à la brasserie du Grand Cerf.
C'est ça.
Voilà. Et puis ensuite, le lendemain, eh bien, le réveil va être difficile.
Eh oui.
Va être difficile. Il y a l'estomac qui a peut-être ingurgité pas mal d'alcool. On a discuté. Et puis surtout, l'esprit fait que, quand même, il y a quelque chose de changé dans le pays,
oui,
Fritz Cobus.
Oui, c'est ça. Parce que lui, ça devient son idée fixe, en fait.
Voilà, maintenant.
Même qu'ils disent que non, ils veulent pas le reconnaître. Mais finalement, dans son fort intérieur, il est touché.
Il est perturbé.
Ouais, très perturbé. Voilà.
Maintenant, il va ne penser plus qu'à ce nouveau chapitre.
C'est ça.
Qui est inattendu et qui le dévore un petit peu tous les jours et toutes les nuits. Et ça ne devait pas être facile. Aussi décide-t-il un peu de prendre l'air et il va aller se promener, il va aller à la campagne, il va aller finalement voir la ferme qu'il possède.
Voilà, et la ferme dans laquelle s'occupent les parents de Suzelle. Voilà.
Et comme ça, comme en promenade, tiens, j'ai pensé...
Innocemment.
Voilà, tiens, j'ai pensé, je pouvais faire un détour, c'est pas prévu, mais comme il fait beau, je viens vous saluer. Mmh. Monsieur Cobus, voici Monsieur Cobus, s'écrie Suzelle, qui était sur le pas de la porte. C'était Suzelle qui venait de l'apercevoir et qui s'élançait sous le hangar pour appeler son père. Fritz atteignait à peine le chemin des voitures, au pied de la côte, que le vieux fermier anabaptiste, avec son large collier de barbe, son chapeau de crin, sa camisole de laine grise garnie d'agrafes de laiton, venait à sa rencontre, la figure épanouie, et s'écriait d'un ton joyeux « Soyez le bienvenu, monsieur Cobus, soyez le bienvenu, vous nous faites un grand plaisir en ce jour, nous n'espérions pas vous voir si tôt ». Que le ciel soit loué de vous voir et de vous avoir décidé pour aujourd'hui. Oui, Christelle, c'est moi, dit Fritz en donnant une poignée de main.
Christelle, c'est le père. Hein?
C'est le père, oui, Christelle.
Parce que Christelle, ça fait un peu...
Ça pourrait être féminin.
C'est ça.
Voilà, très bien. Une poignée de main au brave homme. L'idée de venir m'a pris tout un coup. Et me voilà. Hé, 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 je vois avec satisfaction que vous avez toujours bonne mine, père Christelle. C'était un véritable paradis. Une bourre était loin. Catel aussi, la bonne chère aussi, tout était loin. Mais d'autres frics maintenant, eh bien,
il était un peu chez lui.
Mmh. Il s'installe, il va, il vient. Il est dans un autre monde. Et le père Christelle, bien au fait des choses de la terre, devient un excellent guide et on part se promener pour visiter les champs, pour visiter la ferme.
Faire partager à son propriétaire,
voilà,
en fait.
Voilà, un grand moment, un partage entre la vie agreste, nouvelle pour notre héros, et puis au retour avec un sentiment étrange de légère souffrance bien discrète. Mmh. Suzelle émerveillait Fritz, et à la ferme, il la voyait telle qu'elle était, en son monde, en son petit royaume, pleine d'initiative, d'idées simples et appropriées, pleine de bon sens et d'esprit. Elle savait écrire, et cela fit joie pour notre ami Cobus, qui est un véritable vacancier.
Là-bas, oui.
Il s'émerveillait, et derrière sa pipe fumée à la fenêtre de sa chambre, pour ne pas gêner la famille. Il rêvait. Où était-il? Était-il à une bourre ou était-il à Meisenthal? Il ne savait plus bien où il en était. Et là, il était enfin...
Il avait perdu le nord et le sud, là.
Voilà, le nord et le sud. Il est un peu perdu et ses repères ont volé en éclats.
C'est ça.
C'est ça. Mais
il était très amoureux, en fait.
Bien sûr. Tout bêtement,
voilà.
Voilà. Et puis, un jour, il a resté quelques jours à la campagne, dans ce paradis. Et un jour, il a fallu bien rentrer à la maison. Il faut regagner ses pénates dans la tristesse générale des parents et la souffrance délicate de Suzelle.
Bien évidemment. Parce qu'elle était éprise.
Et déjà. Une fois à la maison, quelque chose le poussa à aller du côté de la synagogue où il retrouva son ami David, qui, plein de finesse lui aussi, ressentit que l'air du temps et de la ferme avait sans doute changé son grand ami.
Il avait saisi la subtilité.
Chaque chose en son temps. Néanmoins, l'amitié va revenir et on va se retrouver autour d'une bonne table avec le grand Frédéric Schulz, le gros précepteur Hahn, le professeur Speck, ça veut dire le lard en allemand, notre Frédéric, notre Fritz et les autres, à leur quartier général, à la fameuse brasserie. Et bien sûr, on oublie tout ce qui s'est passé. Et puis, maintenant, la vie reprend. La vie de joyeux célibataire, c'est ça.
Oui,
hein, c'est avec ça, la bière, oui. On boit, la brasserie se vide aussitôt. On se regroupe dehors devant la brasserie et on commente le retour des cigognes. C'est important.
C'est important en Alsace, oui.
C'est important. Oui. Elles viennent de Jérusalem. Elles se sont reposées sur les pyramides d'Égypte. Elles ont traversé les mers. Tout le long de la rue, devant la halle, on ne voyait que des commères, des vieux papas et des enfants, le cou replié dans une sorte d'extase. Quelques vieilles disaient en essuyant les yeux, « Nous les avons encore revues une fois. » Sous-entendez, nous sommes encore là.
Mais on est encore vivantes.
Encore vivantes. Cobus, il regarde tous ces braves gens, leur mine attendrie, et il pense, c'est drôle, comme il faut peu de choses pour amuser le monde. Rien de nouveau sous le soleil, on va dire. Et la figure du vieux rabbin, surtout, le mettait de bonne humeur. « eh bien, lui dit-il, ça te paraît donc bien beau ?» Alors l'autre, abaissant les yeux et le voyant rire, s'écria, « Tu n'as pas donc d'entrailles, tu ne vois donc partout des sujets de moquerie. Tu ne sens donc rien ? Ne crie pas si fort, tout le monde nous regarde. Et s'il me plaît de crier haut ? S'il me plaît de dire des vérités, si cela me plaît. » C'est ce que craint un peu Cobus, il ne veut pas admettre que les choses sont ainsi.
C'est ça.
Et oui,
il sent le changement, mais il ne veut pas le reconnaître.
Il ne veut pas le reconnaître. Il faut faire comme autrefois, et surtout que rien ne change. Et oui, mais pour l'instant, ce n'est pas toujours évident. Et alors, notre Cobus rentre à la maison après avoir bu force chope. Mais il n'est plus lui-même. Comme on dit aujourd'hui, peut-être il est mal, on va dire. Il n'est pas dans son assiette.
Ah oui.
Il n'est plus dans son assiette.
Pourtant, Dieu sait s'il s'en occupe de son assiette.
Oui, mais ce n'est pas la même. Très bonne remarque. Où diable ai-je la tête depuis quelque temps ? Je suis toujours à rêvasser, à bâiller, à m'ennuyer. Rien ne me manque. Et j'ai des absences. C'est étonnant. Il faudra que je me surveille.
Ah oui.
Et oui, il faudra que je me surveille. Et le séjour à Meisenthal a tout changé. Hein, il est troublé, Cupidon a lâché sa flèche et notre ami Fritz Cobus ne sait plus très bien que faire. On va repartir un petit peu en musique, si
Absolument.
Vous voulez bien, et nous repartons avec l'orchestre nous promener dans les rues de la ville. Thank you. Ah, ça fait du bien un peu de musique comme ceci. Voilà, hein, on a envie de danser.
C'est très gai.
C'est très gai. Et nous retrouvons notre ami. Oui. Et que font-ils? Ben, ils vont goûter des beignets aussi un jour.
Oui, alors là.
Ah, alors Gisèle, parlez-nous des beignets.
Des beignets parce que c'est Suzelle qui les a préparés. Suzelle. Il n'a rien mangé d'aussi délicieux.
Voilà.
Alors là, il lui fallait absolument la recette parce que sa bonne
Catelle
allait lui préparer.
Alors, oui.
Et donc, elle sait écrire en plus. Quelle révélation.
Eh bien, marquée.
C'est ça. Elle sait écrire. Alors,
voilà.
C'est pas possible. Comme si les filles ne savaient pas écrire.
Cette petite est capable de tout.
C'est ça.
Même de satisfaire un gourmand de ton espèce, dira David. Dans 3 ou 4 ans, elle connaîtra la cuisine comme ta vieille Catelle. Elle conduira son mari par le bout du nez.
Oh là là.
Oh là là.
À ne pas dire.
À ne pas dire. Mais enfin, c'est dit. Et si c'est un homme d'esprit, lui-même reconnaîtra que c'était le plus grand bonheur qui pût lui arriver.
Et voilà.
Sais-tu qu'elle conduit déjà tout à la ferme? Ah, eh bien, ma petite, cette petite m'a plu. Et je suis content d'apprendre qu'elle fasse si bien les beignets. Voilà. On dit que les dames attirent les hommes par la casserole.
La queue de la casserole.
La queue de la casserole. Donc, c'est rien de nouveau sous le soleil aussi. Et quand de simples beignets préparés avec amour ont leur rôle dans les relations amoureuses.
Voilà.
C'est bon, c'est bon. Bon, en attendant les beignets, nous allons poursuivre. Et puis, après avoir goûté ces beignets, eh bien, Suzelle revient. Et puis, à côté, il y a un clavecin.
Ah,
il y a le clavecin.
Qu'il n'avait pas ouvert depuis longtemps, d'ailleurs.
Depuis longtemps, il y a de la poussière.
Oui, c'est ça.
Il souffle sur le dessus du clavier.
C'est ça.
Et puis finalement, Suzelle est à côté et des petits airs d'autrefois lui reviennent à l'esprit. Ils s'assoient tous les deux à côté du clavecin, c'est touchant, et la magie va opérer.
Bien sûr.
Et alors tout d'un coup,
il se met à chanter.
«
Rosette, si bien faite, donne-moi ton cœur ou je vais mourir. » Oh là là.
Voilà. Et soudain, Suzelle apparaît derrière la porte. Et donc, la messagère apportait des nouvelles des travaux des champs. Et elle a entendu ce chanteur, n'est-ce pas?
Bien sûr.
Elle entend le chanteur. On veut encore savourer de bons beignets. Mais surtout, nous avons fait de la musique de vieux airs.
C'est ça, oui,
ça
nous avons fait de la
diable.
Musique. Ce sont
oui.
de vieux airs.
Oui.
Ça ne vaut pas le diable. Enfin, j'en ai fait si peu. Mais on saurait tirer une bonne mouture. Ah, on saurait tirer une bonne mouture d'un mauvais sac.
Eh oui.
Ah, ah. Donc, il disait qu'il savait plus jouer. Il était là, il jouait un peu les humbles parce que Suzette était là et que ça lui faisait vibrer le cœur. Hein.
Ça lui fait vibrer le cœur. Donc, deux expériences, les beignets, la musique finalement.
C'est ça.
Ça rapproche. Et donc, notre Suzelle. Eh bien, elle est repartie chez ses parents. Et il ne pense qu'à une chose, quand va-t-elle revenir? Porter peut-être du beurre, faire des courses. Peut-être que les occasions vont se multiplier, peut-être.
Mais elle les provoquer, surtout.
Et ben là, et voilà. Et d'autres, notre Fritz Cobus se trouve maintenant déjà pris dans les raies du filet, déjà, mine de rien. Et tout ce qu'il avait adoré, ben, il le brûle. Et tout ce qui brûlait, maintenant, il va l'adorer.
Ben oui.
Et c'est rien de nouveau sous le soleil. La petite regardait Cobus encore une fois, avec un sentiment de reconnaissance inexprimable. Elle sortit et descendit l'escalier. Fritz, tout troublé, s'était approché de la fenêtre. Il vit une pauvre enfant se mettre à courir en remontant la rue. On aurait dit qu'elle avait des ailes. Eh bien, voilà, nous partons maintenant avec la pensée. Cobus a l'occasion, comme chaque année, d'accompagner le précepteur, ou non, le percepteur. Il va faire la tournée des villages. Et il y a certains villages où il y a beaucoup d'argent. Et puis, il y en a d'autres où il y en a un peu moins. Et un jour, eh bien, on fait la queue dans l'escalier et il faut venir donner ce que l'on a. Et un jour, il y a une fillette blonde qui avance. Et Fritz Cobus, qui a accepté l'invitation de Hahn, assiste à l'opération, écoute les commentaires. Parfois, il aide un peu le percepteur. Et puis, bon, la pauvre fille qui arrive, finalement, est très pauvre et il n'y a pas beaucoup d'argent.
Donc, voilà.
Il n'y a pas beaucoup d'argent.
Mais peut-être qu'elle lui faisait penser à quelqu'un.
Mais peut-être voilà. Il lui fait passer à quelqu'un.
À et Suzelle.
Alors, quand il voit cette fille,
pauvre jeune fille oui.
Toute seule, malheureuse, triste, honteuse et peut-être très gênée, et qui n'a peut-être même pas un thaler à donner.
C'est ça.
Et le percepteur a tout bien compris, mais il fait son travail.
C'est ça.
Il est obligé d'encaisser, voilà, au propre et figuré. Et puis donc, à côté, il y a notre Fritz, lui, qui est sans doute ému, puisqu'il s'en va. Il se détourne et va regarder par la fenêtre. Il ne veut pas voir la scène.
Oui, mais malgré tout,
malgré tout, il entend le dialogue que Hahn commence avec l'enfant. Il se retourne et on va dire, ce grand seigneur, il va éponger les dettes de la petite.
Voilà, c'est ça.
Et en réalité, la petite s'appelle Suzelle. mais voilà. C'est la magie.
C'est la magie qui s'opère.
Et nos deux amis, eh bien, ils ont fini leur tournée et ils vont rentrer le soir est tombé et on va rentrer au village.
Seulement, oui, le soleil a disparu à ce moment-là.
Voilà. Oui, le soleil a disparu.
Quelques étoiles tremblotaient par-dessus le sombre massif de la forêt, dans la profondeur de l'infini. La rêverie de Cobus devint plus grande encore et plus intime. La lune se levait, le sentier plein de lumière blanche. Tout à coup, un chant s'éleva dans la nuit. Le silence était grand. Mais devenu plus grand, il accompagnait les forêts qui semblaient écouter les faneuses et les faucheurs qui rentraient chez eux une fois le travail achevé. Quand je pense à ma bien-aimée, voilà ce qu'il chantait.
Quand il pense à ma bien-aimée, c'est un vieux chant d'Alsace aussi, c'est très beau. Et là, il assiste à quelque chose qui se fait, il y a la nature, il y a le moment, il y a la rêverie.
En fait, il ne connaissait pas tout ça.
Il y a l'émotion.
C'est une découverte quand même pour lui.
Oui. Il découvre un nouveau monde.
C'est ça.
Qu'il ne voyait
mais
pas.
Mais qui l'enrichit quand même.
Qui l'enrichit parce que.
Pas les
il
bourses,
sait...
mais qui enrichit quand même
voilà.
Intellectuellement.
Il souffre.
Ah,
il
ben
souffre,
oui.
Mais en même
il
temps.
Il ne connaissait pas ça.
Non. Il souffre, mais en même temps, il s'enrichit. Et il comprend mieux les choses, peut-être, de la vie.
On va espérer. Plus proche de la vie.
Eh bien, oui, il faut avoir un peu de souffrance de temps en temps, peut-être, pour passer. Et il pense, les souvenirs alors arrivent, et il pense à une fête autrefois qui avait lieu pas loin du village. Il se souvient que son père, le juge de paix, l'emmenait à Bichem. Et puis, il se dit, il faut y aller.
C'est une très grande fête, là.
Oui,
vraiment.
C'est la grande fête.
Tout le monde y va.
Tout le monde y va. Et alors, il va louer une voiture à cheval.
Mais quelle voiture ?
Bien sûr, on va s'habiller, on va se mettre sur son 31, parce qu'il va à la fête. Mais le vrai motif, tout le monde a bien compris, c'est l'éternel féminin, on va dire.
C'est l'éternel féminin. Il n'y a que lui qui pense qu'on n'est pas au courant.
Voilà, les autres, voilà. Et demain, tout va changer, tout va être beau. Et puis, on arrive à Bichem. Et puis, il trouve quelqu'un qui l'aurait... Il retrouve le père Christel.
Ah, c'est ça.
Il retrouve le père Christel car il pense que Suzelle sera là-bas.
Mais c'était prévu normalement qu'elle y soit.
Et
il lui dit qu'elle.
Et oui.
Son père dit qu'elle sera là, mais bon.
Donc il la cherche
il
dans la
cherche
foule.
De, il la cherche de partout.
Il la cherche de partout. Il la trouve quand même au dancing, si on peut dire, à la salle des fêtes, si on peut dire aussi.
Donc, il la trouve
avec la grand-mère,
voilà.
Mais ils se sont mis un peu derrière, ils sont discrets.
Mais c'est parce qu'eux, ils ne participent pas à la danse.
Non.
Longtemps, il la chercha, de plus en plus inquiet.
Oui. Enfin,
il la cherchait vraiment. Enfin, il la découvrit au loin, cachée derrière une guirlande de chêne tombant du pilier à droite de la porte. Suzelle, à demi effacée derrière cette guirlande, inclinait la tête sous les grasses feuilles vertes et regardait timidement à la fois craintive et désireuse d'être vue. Elle n'avait que ses beaux cheveux blonds tombant en longues nattes sur ses épaules pour toute parure. Près d'elle se tenait droite comme un i, la grand-mère Anna, ses cheveux gris fourrés sous le béguin noir et les bras pendants. Ces gens simples et modestes n'étaient pas venus pour danser. Ils étaient là venus pour voir et se tenaient derrière, dernier rang de la foule. En fait, ils y allaient pour... Ils participaient pas, ils ne pouvaient pas. Mais ils venaient pour regarder les gens danser. C'était pour eux, ils assistaient au spectacle.
Pour rêver peut-être
c'est
aussi.
C'est ça, ou peut-être.
Ils étaient un peu dans les coulisses peut-être aussi, regarder.
Mais c'est ça, ils ne faisaient que regarder, voilà. ils ne pouvaient pas participer,
non,
eux.
Non, non. Ils n'étaient pas peut-être de ce monde, c'est peut-être aussi ça.
Ah, c'est ça le problème,
ouais,
oui.
Voilà.
Mais on va tout effacé.
Mais tout effacé. Et Fritz est là, ses joues s'animent. Il a vu Suzel. Il traverse la hutte au milieu de l'attention générale, car on le connaît. Il est bien vêtu. Il a grande taille. On sait ce qu'il veut. Et Suzel, le voyant venir, devint toute pâle et dut s'appuyer contre le pilier.
Eh oui.
Elle n'osait plus le regarder. Il monta 4 marches. Écarta la guirlande, oui, c'est tout décoré, et lui prit la main en disant tout bas, « Suzel, veux-tu danser avec moi, le Triolens ?»« Oh oui, monsieur Cobus, » fit-elle en regardant la grand-mère, qui acquiesça aussitôt. Et ils dansèrent donc dans la salle. « Il a bien choisi, » entendit-il, et en fut tout heureux, car les deux danseurs faisaient l'admiration générale. Ils dansèrent en perdre le souffle, tournoyant jusqu'à la fin du morceau, et ils s'arrêtèrent juste devant le père Christelle, accompagné d'un autre vieil anabaptiste. Christelle fut très fière et honorée de voir sa fille virevolter avec M. Cobus. Mais le paysan ne voulait pas rester pour cause de travaux à la ferme. Il devait repartir avec sa fille. Les travaux des champs n'attendaient pas, même un dimanche. Fritz insista pour que la cause de son bonheur restât encore. Mais étrangement désolé mais ferme, le paysan ne voulait rien savoir. Tout au plus accepta-t-il de trinquer à la fête. Puis il fallut se quitter. Il fallut se quitter. Fritz, tout triste, suivit longtemps du regard la voiture. Au moment où tout allait disparaître, à un tournant, devant les remparts, Suzel tourna vivement la tête. Suzel tourna tout vivement la tête et le cœur de notre Fritz Cobus se serra mais garda cette belle image. Et ce personnage qui était avec Christelle, c'est un ami qui est venu à la fête aussi, mais dans un autre but plus précis, et peut-être plus la porte des nuages un peu noire.
Ah, c'est ça.
Voilà, c'est le messager, c'est le destin peut-être qui va contrer les beaux
projets.
Donc
Christelle vient annoncer une mauvaise nouvelle à Cobus.
Et voilà, et voilà. Et alors,
parce que sa fille est promise.
Sa fille est promise. Hans Christian Pelsi, un anabaptiste encore, connaissant nos biens, avait pensé à Suzel pour son garçon. Mais avant de rien dire et de rien faire, il était venu lui-même, comme pour racheter notre petit bœuf. Il a passé la journée de la Saint-Jean chez nous. Il a bien regardé Suzel, il a vu qu'elle n'avait pas de défaut, qu'elle n'était ni bossue, ni boiteuse.
C'est comme un animal, en fait.
Oui, 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 comme une vache ou un bœuf,
ah ben,
pareil.
Oui.
Oui, ni contrefaite d'aucune manière, qu'elle s'entendait à toutes sortes d'ouvrages et qu'elle aimait le travail. Oh. Alors il a dit à Christelle de venir à la fête de Bichem et Christelle a vu hier le garçon. Il est grand et bien bâti, laborieux. C'est tout ce que nous pouvons souhaiter de mieux pour Suzel. Pelski a donc demandé hier Suzel en mariage pour son fils.
Catastrophe des catastrophes.
Coup de tonnerre. Les parents sont bien ennuyés. Maître Cobus n'en revient pas et finit par s'évanouir.
Oh là, le malheureux, d'un seul
coup. Ne pouvant
supporter
davantage devant la mère incapable de discerner. L'idée qu'un autre allait épouser Suzel lui déchirait le cœur.
Bien sûr.
Il voulait aller prendre un verre d'eau pour se remettre, mais cette secousse était trop forte. Ses genoux tremblaient, et comme il étendait la main pour saisir la carafe, il s'affaissa et tomba sur le plancher de tout son long.
Mon Dieu.
Appelé dans l'urgence, le vieux expérimenté médecin comprend la situation et rassure tout le monde. Ouf! Et donc, voilà, et le moment de la confession. Le moment de la confession. Fritz retrouve David. Et David, le juge, si on peut dire, il avait rien
Non, mais je crois qu'il comprend, David.
Il a tout compris. Mais il veut voir, il veut un peu...
Il veut essayer de le pousser à ce qu'il avoue.
À vous d'y voir ce qu'il en est.
Oui, c'est
de
ça.
De voir ce qu'il en est. Alors,
mais
l'amour
dis si
fou.
Tu l'aimes, mais dis-le.
Eh bien oui, l'amour fou pour la petite paysanne reste platonique pour Fritz. Il est timide, peu au fait des choses de l'esprit, qui ne se déclare enfin qu'à David. C'était ma seule joie. Je ne pensais plus qu'à elle, et voilà qu'on la donne à un autre. Mais si tu l'aimes, s'écria David, Suzel doit le savoir. Tu n'as pas manqué de le lui dire. Je n'ai pas osé.
Ouais, c'est ça.
Tu n'as pas osé? C'est égal, elle le sait. Elle est pleine d'esprit. As-tu seulement demandé si elle consent à prendre l'autre? Je n'y avais pas pensé.
Il n'y avait d'esprit, ce n'était pas possible.
Le vieux et perspicace Reb, rassuré sur l'état de santé de son ami, décide d'accompagner le malade imaginaire, voilà Molière, pour rencontrer parents et futurs élus.
C'est ça.
Le temps presse et Fritz, remis vite sur pied, emboîte le pas au négociateur David.
Voilà.
Et voilà, et c'est l'explication à Meisenthal. Et voilà, et le père Christel...
Mais le père, d'un seul coup, il dit, mais c'est pas possible, oui. On n'est pas du tout du même niveau.
Il est honnête.
Et c'est ça, alors il dit, monsieur Cobus,
oui.
Réfléchissez.
Voilà.
Réfléchissez que vous êtes d'un autre rang que nous.
Et oui.
Que nous sommes des gens de travail, des gens ordinaires. Que vous êtes d'une famille distinguée depuis longtemps, non seulement par la fortune, mais encore par l'estime. Réfléchissez à cela. Donc, il essaie quand même de lui faire comprendre qu'ils ne sont pas du même rang, en fait.
Cependant, bon. À la fin, Fritz s'étant écrié d'une voix tremblante, « Suzel, tu ne m'aimes donc pas, que tu refuses de répondre !» Alors, tout à coup, se levant comme une désespérée, elle vint se jeter dans ses bras en s'écriant « Aussi, je vous aime !» Tragédiante, comédiante.
C'est ça.
Tout était dit. Bénissons la volonté de l'Éternel, ite missaes. La messe est dite. Et ensuite, donc, comment se fait-il, monsieur Cobus, cet homme riche, cet homme considérable, épouse une simple ville des champs, on jase dans la ville.
Ben,
la fille
étonne,
de son propre
en fait,
fermier, lui qui depuis 15 ans a refusé tant de beaux partis. Les cancans vont bon train. Les amis critiquent avec un fond de jalousie, mal marquent le coup et envient leur ami. Le mariage est la fin de la joie, comme le déclare Han. Et jusqu'à l'heure tardive, l'heure du couvre-feu, on refit le monde encore une fois. L'amour présida à la rédaction du contrat. La petite corbeille de Suzel reçut une belle dot. David et Fritz, faisant assaut de générosité, l'entourèrent de leurs dons.
C'est-à-dire qu'il a donné la pièce de terrain qu'il avait récupérée.
Voilà.
Il lui a donné en dot.
David rajeunissait et sa parole auguste et pleine de sagesse vint clore ce récit. Ce conte, cette leçon de vie.
Voilà.
Les deux auteurs nous offrent un bel exemple du vivre ensemble, si on peut dire. Oui. Anabaptiste, protestant, catholique, juif. Ces derniers cependant les plus pauvres. Le personnage de Fritz Cobus est la personnification de cette harmonie. Il ne se préoccupe que de bien vivre en bonne amitié avec celles et ceux qu'il aime. Ils vécurent longtemps et eurent beaucoup d'enfants, comme on disait naguère à la fin des romans. Et pour finir, en dehors de l'amour, tout n'est que vanité. Ah, il n'existe rien de comparable, le mariage avec la femme qu'on aime est le paradis sur terre.
Et voilà.
Et délivrant, comme à la synagogue, un message inspiré des Écritures, le Reb conclut, mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Quiconque aime les autres connaît Dieu. Celui qui ne les aime pas ne connaît pas Dieu. Voilà. et ils vécurent, ils se marièrent et vécurent et eurent beaucoup d'enfants.
Alors, je dois dire que ce livre, s'il est plein de bons sentiments, ben, c'est pas mal non plus de bons sentiments. Quand on le lit, moi, ça m'a rendue gaie, joyeuse.
C'est
parce
vrai.
Qu'en fait, c'est l'inverse des romans balzaciens. Il n'y a pas de perversion, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de trucs cyniques.
Ça fait du bien.
Ça fait beaucoup de bien et on en sort, quand on a fini le livre... Eh bien, on est apaisé, on est joyeux,
on
est
gai.
On se sent très bien.
On a beaucoup de joie.
Voilà, c'est ça.
On a beaucoup de joie. Merci à Erckmann Chatrian, qui ont écrit aussi
beaucoup
de livres.
Et je dois dire que je l'avais lu, je pense que je vais être... j'avais une douzaine d'années. Hein.
Oui.
On lisait beaucoup à l'époque.
Voilà.
Et c'était bien.
Moi, c'était pareil. J'avais 11 ans quand
je l'ai lu. Et là, je l'ai relu 7 ans. C'est rigolo.
Voilà. Et puis, le style est agréable.
C'est ça.
Ça coule bien.
C'est ça.
Et puis, c'est bien écrit.
C'est très bien écrit.
C'est ça. On prévoit la fin, mais il y a des rebondissements. Et il y a quand même, entre les lignes, il faut quand même bien regarder.
Oui.
C'est un peu ces œuvres qui sont écrites pour les enfants, soi-disant, comme Le Petit Prince.
Les adultes ont quand même à lire.
Qui furent des enfants, mais qui ne s'en sauvent, qui l'ont oublié, dirait Saint-Ex, eh bien, c'est à lire de temps en temps et qui refait du bien.
Voilà.
Et puis, on se promène dans la belle Alsace ou en Lorraine. On fait un beau voyage. Merci Gisèle pour ce très gros travail que vous avez fait. Merci à Jimmy, aux manettes. Et on repart en musique avec l'Alsace et puis la musique...
Le mariage, avec la musique du mariage.
Et la note, comme si nous étions à Mallornheim le 15 août.
Voilà, c'est
avec la fête de Fritz Cobus et de Suzel. Au revoir.